Les secrets
du musée des Augustins.
Chut. Une Toulousaine bien perchée.
Où l'on apprend à être économe.
Les Toulousains la connaissent tous. Elle est si familière dans le paysage qu'ils en oublient peut-être même de s'interroger sur son identité. Et pourtant, qui est cette figure féminine qui surplombe la place du Puy ? Avec ses ailes et ses couronnes de laurier, elle a tout l'air d'une victoire romaine. Ses sculptures qui célébraient les succès militaires. Mais son histoire n'est pas si simple, car cette belle effigie a endossé plusieurs personnalités. En réalité, les ailes n'apparaissent qu'au XIXe siècle, alors que la sculpture date de 1550. Ce bronze de la Renaissance, une prouesse technique pour l'époque, ornait le sommet d'une tour de l'hôtel de ville. Le sculpteur, Jean Rancy, lui avait alors donné une signification bien différente. Dénommée « Dame Tolose », cette statue incarnait la ville de Toulouse elle-même. C'est ce qu'on appelle une allégorie. Hélas, au fil du temps, la belle dame perd doucement de sa splendeur, ainsi que son pied droit. Tant et si bien qu'en 1827, on la descend de son glorieux piédestal. Sa disgrâce n'est que de courte durée, heureusement. Elle revient sur le devant de la scène grâce au sens de l'économie des équipes municipales. En effet, lorsque l'édification d'un monument en l'honneur d'un général d'Empire est décidée, on se dit qu'il serait bien bête de fondre une nouvelle statue quand on en a une sous la main. On lui flanque donc une paire d'ailes. On la dote de quelques couronnes de laurier. Le pied manquant est remplacé. Et voilà, le tour est joué. Dame Tolose est désormais une victoire ailée. Elle le reste jusqu'en 2005. Cette année-là, elle cède la place à une copie. Une vraie jumelle pour continuer à surplomber la place du Puy. Quant à Dame Tolose, sa mise en retraite au musée des Augustins lui a permis de reprendre sa personnalité. Sans aucun accessoire superflu.
On voit double ?
Où l'on découvre une tête qui passe de main en main. Restons à Toulouse, mais revenons près de 1000 ans en arrière. Le sculpteur Gilles Abertus se lance dans la réalisation d'un chapiteau pour la cathédrale Saint-Étienne. Il connaît son affaire. Sous ses ciseaux, de petites figures prennent vie. Mais pourquoi fait-il apparaître certains personnages plusieurs fois ? Notre artiste représente-t-il une réunion de jumeaux ? Non, pas du tout. Cet artiste nous raconte une histoire. Il s'agit d'un récit biblique, la mort de Saint Jean-Baptiste. Dans ce passage, le roi Hérode tombe sous le charme de Salomé, qui danse pour lui. Et celle-ci en profite pour lui demander la tête du prophète Jean-Baptiste, une vraie femme fatale. Pour Gilles Abertus, ce sujet est un petit défi. Comment raconter tout cela en un seul chapiteau ? C'est pour cette raison que des personnages apparaissent plusieurs fois, car le sculpteur représente quatre moments du récit. À gauche, la jeune princesse séduit Hérode. De l'autre côté, le pauvre saint se fait décapiter par le bourreau. Et ce même bourreau se dédouble pour revenir, sur la face principale, livrer à Salomé la tête tranchée sur un plateau. À son tour, la jeune femme se dédouble. Là encore, pas de panique, ce n'est pas un monstre de cirque. D'un côté, Salomé reçoit la tête des mains du bourreau. De l'autre, elle la donne à sa mère. Avec ce chapiteau historié, comme on appelle ce genre de sculpture, Gilles Abertus parvient donc à raconter toute une histoire. Une BD bien avant l'heure, mais en version vraiment plus difficile à transporter qu'un album d'Astérix. Le secret d'un teint de rose.
Où l'on apprend que parfois, il faut vraiment souffrir pour être belle. En 1998, une sculpture du musée des Augustins n'attire plus tellement les regards des visiteurs. Pour être honnête, cela fait un bout de temps que plus personne ne s'extasie devant elle. Mais qui pourrait reprocher à ces visiteurs de ne pas percevoir qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'art médiéval ? Car il faut dire que cette Vierge à l'enfant, dénommée Notre-Dame de Grâce, n'a plus la fraîcheur de sa jeunesse. Datant de la fin du Moyen-Âge, cette sculpture polychrome a perdu depuis longtemps ses couleurs d'autrefois. Une restauration, précédée d'une enquête archéologique, est donc lancée. Restaurateurs, conservateurs, scientifiques, tout le monde travaille main dans la main pour venir à la rescousse de cette vierge injustement déclassée. Comme un oignon qu'on épluche, on lui retire les couches qui dissimulent sa beauté. Et au fur et à mesure, on se rend compte que Notre-Dame de Grâce n'en est pas à sa première opération. Durant des siècles, Cette sculpture a été l'objet d'un culte, ce qui lui a valu pas mal de changements. En effet, les fidèles refusent de laisser ses couleurs se ternir au fil du temps. Ils ravivent donc régulièrement son éclat avec de nouvelles couches de peinture et en profitent pour choisir une palette colorée au goût du jour. De quoi finir méconnaissable. Heureusement, grâce au talent des spécialistes, la splendeur de Notre-Dame de Grâce refait progressivement surface. Le laborieux démaquillage au scalpel qu'il lui offre se révèle vraiment utile. Le naturel lui va si bien. Et dans ses couleurs d'origine, la Vierge à l'enfant retrouve enfin l'émouvante finesse de ses traits.
Erreur de commande ?
Où l'on affiche haut et fort ses valeurs.
En 1570, les Capitouls, qui tiennent les rênes du pouvoir toulousain, viennent de recevoir un immense tableau. On y voit 4 femmes, dont certaines sont un peu dénudées. Est-ce une erreur de livraison ? Et non, les Capitouls eux-mêmes ont bel et bien passé cette commande à leur peintre officiel, Arnaud Arnaud. Mais avant de crier au scandale, enquêtons un peu pour bien comprendre la signification de cette œuvre. Car les 4 figures sont en fait des allégories, autrement dit, des symboles. À cette époque troublée par les guerres de religion, le Capitoula souhaite en effet affirmer les valeurs de sa ville. Alors un tableau de près de 3 mètres de haut semble idéal pour ne pas les perdre de vue. La première de ces figures, sur la gauche, représente la justice. Impartiale, avec ses yeux bandés, elle pèse le pour et le contre grâce à sa balance, et tranche finalement avec son épée. La deuxième tient une pioche et un bout de muraille pour représenter les travaux publics, un domaine qui incombe au pouvoir local. Pour la troisième, le jeu de pistes se complexifie et il faut bien observer les indices pour le résoudre. L'allégorie porte une coquille sur son chapeau, elle tient un bâton de marche et, dans ses mains, une église avec un pèlerin. Eureka ! Arnaud fait référence au pèlerinage de Compostelle, passant par Toulouse, qui nécessite le développement d'infrastructures d'accueil. Ainsi, il symbolise l'administration des hôpitaux. Enfin, la dernière femme tient une grande équerre en bois et un compas, en référence à la police des métiers. Avec ces messages cachés, les Capitouls affirment leur volonté de faire de Toulouse une ville rigoureuse, qui mène à bien ses missions. Rien à voir avec du voyeurisme.
Six personnages en quête de nom.
Où l'on remonte le fil de la rumeur.
Les statues de notre histoire sont si expressives qu'en tombant nez à nez avec elles, il est bien difficile de rester de marbre. Et cet étonnement ne date pas d'hier. Au XVIIe siècle, déjà, on s'interrogeait sur la signification de ces étranges personnages de terre cuite. À cette époque, ils se trouvent dans l'église Saint-Cernin à Toulouse. On les prend alors pour les portraits de bienfaiteurs des lieux. Des gens ayant financé la construction de l'église, par exemple. Et de fil en aiguille, on s'est dit que ceux qui avaient autrefois de gros moyens, eh bien, c'était les comtes de Toulouse. Voilà comment ces sculptures non identifiées deviennent, dans l'esprit des gens, les portraits des seigneurs du passé. Mais comme leurs traits sont finement rendus, dents et langues visibles, on ne veut pas croire à de simples sculptures. On s'imagine que ces visages ont été moulés sur ceux des comtes après leur dernier souffle. Les sculptures y gagnent un surnom. Les momies des comtes de Toulouse. De quoi faire frémir dans les chaumières. Puisque tout le monde s'accorde à dire que ces statues ne sont pas des représentations de personnages religieux, l'Église voit peu d'inconvénients à les laisser partir. Elle déménage donc pour le musée des Augustins en 1902. Ce n'est qu'une centaine d'années plus tard que les archives de l'Église révèlent le fin mot de l'histoire. Ces statues sont l'œuvre d'un certain Jean Bauduit. Réalisées au XVIe siècle, elles représentent en fait des prophètes et des sibylles. Autrement dit, des figures bibliques et antiques, annonçant l'avenir. Vu que nos personnages avaient perdu jusqu'à leur identité, il va sans dire que leur message s'était égaré en route.